La maison est pratiquement restée intacte, puisque les petites filles de George Sand, et notamment Aurore Sand, y a vécu jusqu'en 1961. Très peu de choses ont bougé. On retrouve ici vraiment l'essentiel de cette maison, donc qu'elle va connaître à l'âge de 4 ans. Mais ce n'est pas une maison anecdotique pour elle, puisque c'est la maison du ressourcement. Même si George Sand bouge énormément, c'est une grande voyageuse, elle a des liens avec Paris pendant très très longtemps. Il n'empêche que chaque fois, elle revient ici pour se ressourcer, pour retrouver. Et puis, surtout, elle va créer ici, au moins dans la période qui précède 1850, une maison extrêmement vivante, une sorte de centre culturel de rencontre avant l'heure, puisqu'elle réunira ici tous les grands artistes qui comptent, soit les écrivains, les musiciens, mais aussi les philosophes, les hommes politiques. Et la maison sera un creuset comme ça, très important, d'échanges et d'amitié, parce que c'est pas du tout l'image du salon littéraire 19e guindé avec ses rituels, c'est vraiment le cercle familial élargi aux amis. C'est un lieu de liberté, c'est une maison du 19e et qui échappe au code bourgeois de l'époque.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
L'administrateur du domaine de Nohant, Georges Buisson, arrange un peu la réalité. Car en fait, après la mort de George Sand en 1876, son fils chéri, Maurice, à qui elle avait légué son nom de plume, se hâta de vendre meubles, livres, tableaux et terres pour assurer son train de vie, après avoir fait abattre en nombre les grands arbres plantés par sa mère et auxquels elle tenait tant. Mais il est vrai que Nohant demeure, et la beauté tranquille de cette grande et harmonieuse maison, où il semble aux visiteurs charmés, que flotte encore l'âme de celle qui la modela à son rêve de communauté d'artistes. C'est après avoir lu avec passion « Histoire de ma vie » que Michel Perrault changea d'opinion sur l'auteur de « La mare au diable » et de « La petite fadette », lecture d'écolière qui, reconnaît-elle, ne l'avait jamais vraiment enthousiasmée. Et pour mieux cerner la personnalité de cette femme si moderne, telle qu'elle nous apparaît dans sa formidable correspondance, dans un 19e siècle tellement corseté, c'est par sa Thébaïde Berrichonne qu'elle a voulu l'aborder. Son livre « George Sand à Nohant » paru au Seuil, passionnant de bout en bout, nous raconte une femme incroyablement proche des femmes d'aujourd'hui par ses choix de vie, elle qui s'enorgueillissait de n'avoir jamais eu de maître, même en amour. Bonsoir Michel Perrault.
Bonsoir Catherine Evin.
Alors cette George Sand, en fait, elle vous est arrivée parce que dans vos travaux d'historienne, vous vous plongez souvent dans les recueils autobiographiques et que pour étudier les femmes dans cette époque, vous avez travaillé sur Histoire de ma vie, qui est un livre incroyable, justement pour l'époque, parce que c'est un livre au fond d'une modernité assez grande. George Sand était une femme beaucoup plus libre que les femmes de son temps.
Ah oui, elle était d'une liberté qui continue à nous étonner aujourd'hui. Et Histoire de ma vie est un chef-d'œuvre, à mon avis, et en effet d'une grande originalité. Bien sûr, d'autres femmes ont écrit leur vie, Marie Dagou et quantité d'autres. Enfin, cet ensemble-là, à la fois personnel, familial, avec cette idée qu'on ne peut se comprendre soi-même qu'avec trois générations. Ce qui est une idée très moderne, parce que il y a l'idée de la transmission. Et puis en même temps, c'est traversé par l'histoire, bien sûr, puisque tous ces gens-là, sa grand-mère, son père, qui fut officier dans les armées révolutionnaires et napoléoniennes, ont vraiment vécu intensément le siècle et adhéré très fort aux idéaux de la Révolution française, alors que même ils étaient, notamment Marie-Aurore de Saxe, d'origine aristocratique.
Oui, mais c'est très étonnant, vous dites trois générations, effectivement, Aurore Dupin, George Sand, elle vient d'une famille très peu traditionnelle. Vous dites sa grand-mère, noble, mais sa mère bohémienne, elle-même mariée à un Casimir du Devant sans grand intérêt, divorcé. On se rend compte que c'est une famille complètement atypique, qui ne respecte pas les codes.
Absolument, absolument. Et un petit mot de sa mère, qui est tout de même la plus absente de la vie, d'abord parce qu'elle meurt en 1836, c'est-à-dire être jeune finalement, c'était une mésalliance. Maurice Dupin, père de George Sand, avait rencontré aux armées, en Italie, une jolie jeune femme qui était avec un autre officier. Il la lui a ravie, en quelque sorte, et elle est tombée enceinte. Alors il a annoncé à sa mère qu'il l'épousait. Comment ? Lui a-t-il dit, tu épouses une fille désarmée, mais c'est une fille entretenue, probablement. Peu importe, lui a dit, je l'aime et je l'épouse. Mais la grand-mère avait toujours réprouvé cette alliance dont George Sand s'enorgueillissait. Pour elle, c'était au fond le fondement de son identité sociale. D'un côté, cette aristocratie qu'elle n'aimait pas trop, elle n'aimait pas l'aristocratie. Mais enfin, quand même une lignée de grands hommes, en tout cas. Et puis, sa mère, qui était une fille du peuple de Paris, fille de gens qui vendaient des oiseaux sur le quai aux fleurs, elle-même étant modiste, et à peu près illettrée, enfin encore que elle a certainement appris puisqu'elle écrivait des lettres qui sont pas mal du tout à sa fille, mais avec une culture populaire formidable, notamment par les chansons. Elle savait beaucoup de chansons et George Sand a été sensibilisé comme ça à l'intérêt de la culture populaire, des mots, des chansons, des gestes et de ces traditions par les femmes. Notamment.
Alors, George Sand, on le disait, Histoire de ma vie, c'est un bon moyen de la connaître, mais il y a un autre moyen de la connaître, c'est sa correspondance avec Flaubert, avec Alexandre Dumas-Fils, avec Balzac. Et en fait, cette correspondance, elle tourne souvent autour de Nohant, d'abord parce qu'elle écrit depuis Nohant, parce qu'elle les invite à venir la voir. Vous-même, Michel Perrault, vous avez visité Nohant et vous avez eu la chance de rencontrer la petite fille de George Sand, qui y a vécu jusqu'en 1961. On va l'écouter en 1961.
J'ai connu George Sand jusqu'à l'âge de 10 ans. C'est elle qui m'a reçue dans ses bras quand je suis née. Il paraît que j'ai ouvert les yeux quand j'ai été dans les bras de George Sand, et que George Sand a prétendu que je la reconnaissais. J'ai le souvenir qu'elle m'a appris à lire, à dormir, à être sage, à ne pas faire de scène, à ne pas crier quand j'étais en colère, et à savoir me dominer et à passer dans la vie très calme d'apparence et très sage. Elle n'avait pas besoin de sévérité parce qu'il suffisait qu'elle me regarde pour que j'obéisse absolument à tout ce qu'elle m'indiquait. Elle était adorablement bonne pour tout le monde et en particulier pour les gens qu'elle aimait. La vie était une vie tout à fait familiale, très unie, très heureuse, très gaie, pleine de fantaisie et de régularité. Dans son jardin, elle était tous les jours et c'est elle qui dirigeait les travaux du jardinier.
Michel Perrault, cet extrait charmant de La petite fille de George Sand nous dit bien à quel point cette maison, c'est le portrait peint de George Sand. Elle a fabriqué cet endroit, le jardin, la maison, les ateliers qu'elle y a créés. Elle l'a fabriqué à l'idée qu'elle se faisait d'une vie idéale.
Oui, tout à fait. Le témoignage de Aurore Lautsand est très intéressant. Peut-être est-il un peu idéalisé. Il correspond à la fin de la vie de George Sand, à une époque où elle avait accepté de vieillir, ce qui n'a pas toujours été le cas. Et c'est vrai que ça donne une image très apaisée d'elle-même. Cette image apaisée n'est pas originelle, elle n'est pas naturelle. Elle a été dans sa jeunesse et pendant très longtemps une femme tourmentée, passionnée, qui a beaucoup souffert aussi. Par exemple, de ses amours avec Chopin, elle dit dans son roman « Ils s'aimèrent longtemps et furent très malheureux ». C'est pas du tout les contes de fées. Mais c'est une image, encore une fois, des années terminales. Et c'est vrai qu'elle a beaucoup aimé la grand-maternité. Elle s'entendait très très bien avec la petite Lolo, puisqu'elle l'appelait Lolo. Il y avait toujours des surnoms dans la famille Sand. Et tout ce que dit Aurore l'hôte, c'est en effet tous ces apprentissages, nous les voyons dans la correspondance de George Sand, qui a par ailleurs écrit pour elle et pour Gabrielle, la petite sœur, Titite, comme on disait. Elle a écrit des contes, les contes d'une grand-mère. Et quand on les lit, c'est pas du tout de la littérature rose. C'est pas tellement la comtesse de Ségur. Elle a une espèce de désir de transmettre la science. Voilà, elle voudrait que les fées, au lieu des bonnes fées, on enseigne les principes de la science, de la botanique, de la géologie, mais attention, de manière agréable, en se promenant, en regardant les fleurs, etc., etc. Donc, elle a créé, à l'usage des enfants, une littérature tout à fait originale.
Mais surtout, on découvre, en vous lisant, Michel Perrault, que cette femme, donc, qui a vécu dans ce 19e, où les femmes tenaient à la rigueur un salon, elle est une femme qui a toujours travaillé pour entretenir sa maison, ses terres, sa domesticité, ses hommes, sa famille, ses enfants. C'est une femme qui n'arrêtait pas de travailler pour payer l'entretien de Nohant. Parce qu'au fond, elle n'a jamais voulu se transposer à Paris, elle n'a jamais voulu vivre une vie d'écrivain reconnu à Paris. Pour elle, c'était Nohant, le centre de son monde.
Paris, la fête, en quelque sorte, elle n'aurait jamais été ce grand écrivain reconnu qu'elle a été sans Paris, bien entendu. Mais elle n'aimait pas beaucoup Paris. Et elle ne se sentait bien, véritablement, que à la campagne. Mais comme vous le disiez très bien, Nohant, il y a des terres autour de Nohant. 200 hectares de terre, ce n'est pas rien pour le Berry, qui est un pays de petites tenures, de petites propriétés. Mais c'est des ce ne sont pas des terres qui rapportent beaucoup. C'était des terres en blé et il aurait fallu faire plutôt un peu plus d'herbage. Elle l'a essayé parce que cette femme qui a tout fait finalement a été pendant quelques années une véritable exploitante où elle essayait avec ses fermiers, les 200 hectares étaient divisés en 3 fermes, de leur dire il faudrait peut-être faire de la semence triennale, il faudrait qu'il y ait du blé, puis qu'il y ait la jachère pour que les terres elle s'inspirait des idées agronomiques de l'époque que son précepteur Deschartres, qui est un personnage extraordinaire, lui avait transmise en quelque sorte parce que lui-même se piquait beaucoup d'agronomie. Mais elle a un peu échoué. Elle a un peu échoué, pourquoi ? Parce que les paysans berrichons étaient pas emballés. Parce qu'ils étaient un petit peu routiniers, disons, qu'elle-même n'avait pas le temps, puisqu'elle elle écrivait, et comme vous le disiez très bien, elle écrivait, certes par goût, je crois, quand même, mais aussi pour gagner de l'argent. Parce que cette terre, cette maison, où elle recevait tellement, où elle avait tous les jours 8 personnes constamment, 15, 20 quand elle recevait, ça coûtait très cher. Car elle recevait naturellement, libéralement. Donc, comme elle disait, il faut piocher. La pioche. Et elle était extrêmement femme d'affaires, entendons-nous, pas toujours très avertie, mais en tout cas tout de même très attentive à ses droits d'auteur. Et Tarabustan, Buloz ou Hetzel, qui furent ses grands éditeurs, pour que quand même il la paye. Il fallait arriver à gagner sa vie. Et en réalité, ce qui lui a le mieux rapporté, puisque nous parlons d'argent, c'est le théâtre.
Oui, c'est curieux parce qu'on ne la connaît pas du tout comme auteur de théâtre.
Bien sûr, pas du tout.
Sans doute, heureusement, vous avez regardé un peu ces pièces de théâtre.
Oui, c'est pas très facile. De toute façon, le théâtre du 19e, même quand c'est Victor Hugo, même, n'est pas toujours facile à jouer. Dumas fils passe bien, Dumas fils qu'elle connaissait très bien. Mais bon, c'est pas extraordinaire, disons. Ça ne nous parle plus beaucoup, voilà. Mais elle avait beaucoup de succès, à l'Odéon notamment, dans différents théâtres des boulevards, et avec ça, surtout, elle a gagné de l'argent. Donc, elle a une vie de bohème, c'est-à-dire avec, de temps en temps, elle a rien du tout. De temps en temps, elle dit, mais je peux pas aller à Paris parce que j'ai pas de quoi me mettre sur le dos. Elle dit ça, et probablement c'est vrai. Et puis à d'autres moments, au contraire, elle a des bonnes rentrées d'argent et elle peut recevoir comme elle le veut. Elle n'était pas fastueuse dans ses réceptions. Elle n'aimait pas le faste. Elle était très simple. Mais il fallait que tout le monde trouve une chambre agréable, un cabinet de toilette bien entretenu, et naturellement des repas copieux qu'elle ne partageait pas la plupart du temps, parce que il faut pas oublier qu'elle travaille la nuit. C'est pas les soirées de Nohant se prolongent tard. On lit en commun.
On fait de la musique, beaucoup.
On fait des jeux, On fait du théâtre.
Des marionnettes.
Des marionnettes, du théâtre d'auteur, naturellement, le sien. Et puis, vers minuit, tout le monde va se coucher. Elle monte dans sa chambre ou dans son cabinet de travail qui était juste à côté. Et elle travaille, elle écrit jusque vers 4 heures du matin, à peu près, 4-5 heures du matin. Elle se couche à ce moment-là et elle se lève vers 10 heures. Alors quand elle se lève, elle est un petit peu entre deux eaux, elle dit même aux gens, faut pas me saluer parce que je vous reconnaîtrai pas. Et finalement, elle ne prend vraiment un repas que le soir.
Alors vous nous disiez, il y a un moment, Michel Perrault, qu'elle a beaucoup aimé être grand-mère. Elle a peut-être un peu moins aimé être mère. Pas tant avec son fils Maurice, qu'elle a outrageusement privilégié. Elle lui a installé son théâtre de marionnettes, son atelier, elle l'a doté, elle lui a donné son nom de plume. Elle avait des problèmes avec sa fille, Solange. Et on va écouter ce qu'elle disait de sa fille dans une lettre de juillet 1847.
Ce que j'ai souffert de Solange depuis son mariage est impossible à raconter. Et ce que j'ai mis de patience, de miséricorde intérieure et de souffrance cachée, vous seul pouvez l'apprécier, car vous savez ce que je souffre d'elle depuis qu'elle existe. Cette froide, ingrate et amère enfant a joué fort bien la comédie jusqu'au jour de son mariage, et son mari avec elle, encore mieux qu'elle. Mais à peine en possession de l'indépendance et de l'argent, ils ont levé le masque et se sont imaginés qu'ils allaient me dominer, me ruiner et me torturer à leur aise. Les scènes qui m'ont forcé, non pas à les mettre, mais à les jeter à la porte, ne sont pas croyables, pas racontables. Elles se résument en peu de mots. C'est qu'on a failli s'égorger ici, que mon gendre a levé un marteau sur Maurice et l'aurait tué peut-être, si je ne m'étais mise entre eux, frappant mon gendre à la figure et recevant de lui un coup de poing dans la poitrine. Solange, attisant le feu avec une froideur féroce et ayant fait naître ses déplorables fureurs, par des ragots, des mensonges, des noirceurs inimaginables. Ce couple diabolique est parti hier soir, criblé de dettes, triomphant dans l'impudence et laissant dans le pays un scandale dont ils ne pourront jamais se relever. Je ne veux jamais les revoir, jamais ils ne remettront les pieds chez moi. Mon Dieu, je n'avais rien fait pour mériter d'avoir une telle fille.
C'est incroyablement violent, Michel Perrault.
C'est très violent et ça montre que Nohant n'a pas été l'idylle que l'on croit trop souvent. Il y a eu vraiment beaucoup de conflits. Il y a eu des conflits avec son mari qui n'ont pas été drôles du tout. Et la lettre que on a entendue, qui est tout à fait explicite, il n'y a pas besoin d'y revenir, a été écrite peu après cette scène de 47, où en effet, Alexandre Clessinger, grand sculpteur, devant l'Éternel, je ne sais pas, mais devant la société de son temps.
Il venait d'épouser Solange.
Et il a épousé Solange, peut-être par amour, elle était très jolie, Solange, mais aussi parce que la réputation de la fille de Madame Georges Sand et l'argent aussi, hein, car il pensait qu'elle était plus dotée qu'elle ne l'était en réalité. Et d'où sa colère, hein, sa colère, il vient à Nohant pour réclamer son dû en quelque sorte, car il estime qu'il n'a pas reçu l'argent qu'il escomptait. Et d'autant plus que Georges Sand avait une fille adoptive. Elle avait une conception de la famille très moderne, une famille élargie en quelque sorte. Elle avait adopté une jeune fille qui s'appelait Augustine Brault, et cette Augustine Brault qui avait l'âge de Solange, elle donnait toujours en modèle à Solange, qui évidemment était malheureuse à cause de ça. Et de ce point de vue-là, il y a une série de nœuds. Et le dernier nœud, enfin encore un, c'est les relations entre Solange et Chopin. Chopin est dans la vie de Georges Sand pendant 10 ans. Il vient pendant 7 étés à Nohant. Il est donc de la famille, absolument. Et d'ailleurs, lui-même aurait voulu avoir ce rôle de père de famille. Mais ça, il ne voulait pas. Elle ne voulait pas. Et quand Solange, qui était petite fille au moment où il est entré dans la famille, a grandi, elle est devenue une jolie jeune fille. En était-il amoureux? Certains le disent, c'est difficile à véritablement savoir, mais toujours est-il qu'il prenait parti souvent pour Solange contre George Sand dans les conflits qui opposaient la mère et la fille. Alors elle ne l'a pas supporté. Elle n'a pas supporté que Chopin ne condamne pas sévèrement la grande scène que l'on vient d'évoquer. Et là, elle a rompu avec lui. Et c'est évidemment une écharde dans son cœur, dans sa vie. Et elle aura beaucoup de mal à pardonner tout ça à Solange. Ceci dit, elle dit, ils ne reviendront jamais. Lui, Alexandre Clessinger, n'a jamais revenu. Solange, non. Car George Sand est une femme qui est bonne. Et au bout d'un certain temps, elle veut quand même revoir sa fille. Et surtout, elle voudra revoir sa petite fille, c'est-à-dire la fille de Solange, la fille que Solange a eue avec Alexandre Clessinger, qui s'appelait Jeanne, Nini, comme on disait, et qui a été une passion de George Sand. Elle a, avec elle, expérimenté déjà l'art d'être grand-mère, en quelque sorte. Et cette petite Nini est morte à 5 ans et demi, d'une maladie mal soignée, parce que Alexandre Clessinger avait refusé qu'elle soit confiée à George Sand. Et George Sand lui en a énormément voulu, et en a voulu aussi encore à sa fille de ne pas avoir été plus énergique dans cette affaire-là. Alors, les relations avec Solange seront toujours mauvaises, avec des hauts et des bas. Solange, cependant, reviendra à Nohant. Solange, elle est un peu comme un papillon qui se brûle à la lumière qu'elle voit. Elle est attirée par la lampe merveilleuse qu'est Jean. Elle aime sa mère, Solange. Elle aime sa mère. Elle voudrait être comme sa mère. Elle souffre que sa mère la rejette beaucoup. Et quand elle, à un moment donné, beaucoup plus tard, elle veut habiter à côté de Nohant. George Sand est ulcéré quand elle lui dit « Oh là là, ça y est, elle revient ». Finalement, elle a en effet acheté une propriété tout à côté de Nohant pour être auprès d'elle. C'est tragique.
Vagabonde sur France Inter.
Je suis arrivé le soir, c'est loin du chemin de fer, on a mis ma malle dans un buisson. Je suis entré par la ferme, au milieu de chiens qui me faisaient une peur. On m'a fait dîner. La nourriture est bonne, mais il y a trop de gibier et de poulet. Moi, ça ne me va pas. Là était Marshall, le peintre, Madame Kalamata, Alexandre Dumas, fils. On déjeune à 10 heures. Au dernier coup, quand l'aiguille est sur l'heure, chacun se met à table, Madame Sand arrive, avec un air de somnambule, et reste endormi tout le déjeuner. Après le déjeuner, on va dans le jardin, on joue en cochonnet, ça la ranime. Elle s'assied et se met à causer. On cause généralement à cette heure des choses de prononciation, par exemple sur la prononciation d'ailleurs et de meilleur. La causerie chafriolante, toutefois, ce sont des plaisanteries stercoraires. Mais par exemple, pas le plus petit mot sur les rapports des deux sexes. Je crois qu'on vous flanquerait à la porte si vous y faisiez la moindre allusion. À 3 heures, Madame Sandre monte faire de la copie jusqu'à 6 heures. On dîne, seulement on dîne un peu vite pour laisser le temps à Marie Caillot. C'est la bonne de la maison, une petite fadette que Madame Sand a prise dans le pays pour jouer les pièces de son théâtre et qui vient au salon le soir. Après dîner, Madame Sand fait des patiences sans dire un mot jusqu'à minuit.
Michel Perrault, c'est un extrait d'une lettre de Théophile Gautier racontant ses souvenirs de ses voyages à Nohant. Parce qu'en fait, Georges Sand, on le voit dans sa correspondance, passait sa vie à demander à ses amis, écrivains notamment, peintres aussi, on pense à Delacroix, elle les supplia de venir passer du temps. Elle a aménagé la maison pour que tous ces gens puissent y travailler en paix. Il y avait un studio aménagé pour Maurice, mais il y avait aussi l'atelier pour Delacroix, il y avait l'espace capitonné pour que Chopin fasse sa musique. Elle voulait vraiment y créer une communauté d'artistes.
Oui, tout à fait. Il y avait aussi l'atelier de Eugène Lambert, de Alexandre Manceau, qui sera son dernier compagnon. Au fond, cette maison Nohant est tout le temps en travaux. Il y a toujours des ouvriers qui, d'ailleurs, loge à demeure, parce qu'il faut qu'il puisse reprendre facilement le travail. Enfin, il faut voir cette maison dans son bouillonnement. Un petit mot sur la lettre de Théophile Gautier. Théophile Gautier n'aimait pas beaucoup Georges Sand. Il était très lié aux frères Goncourt, et c'est un peu pour les frères Goncourt qu'il racontait ce séjour à Nohant, mais qui est très intéressant. Sa vision est très intéressante, parce qu'après tout, tout le monde n'a pas aimé Nohant, probablement. Et lui, visiblement, il n'est pas fanat.
Et puis surtout, il y avait des oppositions politiques, parce que Georges Sand était une rouge pour tous ces gens-là. Ah, Théophile Gautier, lié aux frères Goncourt, il n'aimait pas beaucoup. Balzac s'en méfiait énormément. Flaubert lui-même lui faisait des reproches. Georges Sand, au fond, a été, et elle était liée pour ça, au Berrichon aussi, qui était plutôt radico-socialiste, mais elle était une socialiste convaincue.
Oui, une républicaine d'abord, et ensuite devenue socialiste. Sa source d'inspiration, après les Saint-Simoniens qu'elle a quittés, c'était Pierre Leroux. Pierre Leroux, qui est peu connu au fond en France, mais qui a été un socialiste important, et très intéressant par son désir de faire la synthèse de différentes idées économiques, sociales et l'idée de réintégrer l'art. Il accordait beaucoup d'importance à l'art en disant à juste titre que l'imaginaire, ça comptait énormément pour les opinions politiques. Il fallait changer la manière de voir des gens et que l'art, là, pouvait être important. Alors, Georges Sand, en tant qu'écrivain, elle aurait dit, se sentait parfaitement à l'aise. Et puis, alors, il y avait, chez Pierre Leroux, la grande idée de égalité. Égalité, égalité, comme elle disait, l'égalité, c'est ma passion. Il faudrait réaliser l'égalité. C'était ça, peut-être même plus encore que la liberté, encore qu'elle, en tant que femme, elle a pris toutes ses libertés. Mais l'égalité, au fond, elle souffrait presque d'être née d'une famille privilégiée. Elle avait ce sentiment de culpabilité qui habitera beaucoup de gens en France. Je pense à François Mauriac, né dans le camp des injustes. Elle aurait dit ça. Elle aurait dit ça probablement. Et par conséquent, il fallait changer le monde. Oui, il fallait le changer par la République et ensuite par le socialisme. Et c'est pourquoi la République de 1848, qui n'a pas duré longtemps, a été la République selon son cœur, celle dans laquelle elle s'est véritablement engagée, physiquement, je veux dire en allant à Paris se mettre à la disposition de Ledru Rollin, de Louis Blanc, qu'elle connaissait très bien, en écrivant les bulletins de la République provisoire, elle en a écrit un certain nombre, en lançant des journaux, La cause du peuple, par exemple, et toutes sortes de petites brochures pour l'éducation populaire, et notamment en direction des paysans, parce qu'elle savait bien que les paysans étaient très réticents devant Paris, très rétifs devant la République. Et elle voulait les persuader que, par exemple, l'impôt des 45 centimes, il fallait bien remplir les caisses de l'État, et les paysans étaient absolument hostiles à cet impôt des 45 centimes qui a été une cause de divorce entre eux et la République. Voilà, alors vous avez parlé radico-socialiste Berrichon, c'était l'intelligentsia de La Châtre, par exemple, tous ces jeunes gens qui allaient à Paris faire des études de droit et de médecine, et qu'elle a réunis autour d'elle, qui travaillaient avec elle pour, par exemple, créer des journaux. Elle voulait donner à la province une presse digne. Elle pensait que Paris était arrogant. Trop arrogant. Et un petit peu plus tard, elle a créé le Travailleur de l'Indre, qui n'a malheureusement pas duré longtemps parce que la République s'est achevée dans le sang, comme on sait.
La République s'est achevée dans le sang en 1871. Elle était très opposée à la Commune, justement, parce qu'elle disait que ça allait aller dans le sens de ceux qui n'aimaient pas la République. Ça a été quand même 5 années avant sa propre mort. Une mort qu'elle disait voir arriver avec une certaine résignation. On va l'écouter dans une lettre qu'elle a écrite à son grand ami Alexandre Dumas-fils.
J'ai sur la mort des croyances très douces et très riantes. Et je m'imagine n'avoir mérité qu'un sort très gentil dans l'autre vie. Je ne demande pas à être dans le 7e ciel avec les séraphins et à contempler à toute heure du jour la face du Très-Haut. D'abord, je ne crois pas qu'il n'y ait ni face ni profil. Et puis, si c'est une grande jouissance d'être aux premières places, ce n'est pas pour moi une nécessité. Je suis optimiste, en dépit de tout ce qui m'a déchiré. C'est ma seule qualité, peut-être. Vous verrez qu'elle vous viendra. À votre âge, j'étais aussi tourmentée, plus malade que vous, au moral et au physique. Lasse de creuser les autres et moi-même, j'ai dit un beau matin... Tout cela m'est égal, l'univers est grand et beau. Tout ce que nous croyons plein d'importance est si fugitif que ce n'est pas la peine d'y penser. Il n'y a dans la vie que 2 ou 3 choses vraies et sérieuses, et ces choses-là, si claires et si faciles, sont précisément celles que j'ai ignorées et dédaignées. Mea culpa. Mais j'ai été punie de ma bêtise. J'ai souffert autant qu'on peut souffrir. Je dois être pardonnée. Faisons la paix avec le bon Dieu.
Étonnante dernière phrase, faisons la paix avec le bon Dieu pour une athée.
Pour une athée, elle pensait qu'il y avait quelque chose après la mort. Elle n'était pas complètement athée, elle hésite, voilà, beaucoup. Anticléricale, absolument. Libre penseuse, absolument. D'ailleurs, son œuvre a été mise à l'index par l'Église, parce qu'elle a fait des romans anticléricaux comme la Daniela et quelques autres, et qu'elle avait pris position pour l'indépendance italienne contre le pouvoir pontifical que Napoléon III finalement soutenait. Donc oui, c'est une femme engagée, tourmentée, et ce qui vient d'être dit est très intéressant du point de vue aussi de la sérénité. La sérénité conquise, mais dont elle dit bien que c'était pas sa nature originelle du tout.
En tout cas, on découvre une George Sand terriblement attachante, passionnante, rebelle, souffrante et apaisée dans votre livre, Michel Perrault. Ça s'appelle George Sand à Nohant. C'est paru aux éditions du Seuil. Merci à vous d'être venu nous en parler si bien ce soir.
Et merci de m'avoir invité surtout.
C'est fini pour l'humeur vagabonde de ce jour. Nous nous retrouverons dans une semaine, mais bien sûr, France Inter continue puisqu'après les informations de 20h, vous avez rendez-vous avec Julia Foyce et son Babel sur scène. Très bonne soirée à l'écoute de France Inter, bien entendu.